Je voudrais remercier la très intéressante exposition de Jacqueline. Maintenant, je passe la parole à Patricia Mendes qui va nous présenter son travail gestion participative, construction de nouvelles ambiances. J'aimerais évidemment vous désirer, souhaiter une bonne journée. Je me réjouis beaucoup d'être ici et de participer à ce séminaire. Et nous construisons en ce moment une nouvelle ambiance. Et j'aimerais remercier aussi Christiane de sa très gentille invitation. Ah bon, tu peux me remercier aussi. Bon, j'aimerais remercier à tous, oui. Mais c'est Christiane qui m'a invitée, donc elle mérite ces remerciements spéciaux. Bon, je vais vous parler aujourd'hui sur un travail et je vais vous présenter ma thèse de doctorat il y a déjà 3 ans. Mais j'ai complété ma thèse à la fin de 2006 quand je faisais la recherche, je participais de la recherche de Jean-Paul Thibault. Et la question de l'ambiance va pénétrer dans la partie finale de ma thèse. Donc je vais parler un tout petit peu de ma thèse, mais enfin, un léger panorama. Mais depuis lors, la notion d'ambiance me m'impacte et enfin, et comme hier même Christian l'a déjà expliqué, ce concept d'ambiance qu'il est tellement plus facile pour d'être construit pour la, par la population que par nous. Une des questions qui m'a fait reprendre ma thèse, c'est justement parce que j'avais au début une difficulté de distinguer ambiance et environnement. Et en partant de ceci, j'ai commencé mon travail et ce projet. Et ce projet était interdisciplinaire, un projet pilote qui avait pour but faire la requalification d'un bidonville vertical dans la région de São Paulo. Et l'Université de Santé publique et mon coordinateur ont été invités à participer pour essayer de créer un projet disciplinaire sur la gestion du risque environnemental. Donc, nous avons proposé un projet qui était en fait inouï à l'époque. Personne n'avait jamais pensé à ce genre d'approche, une recherche d'exploitation, enfin d'exploration. Et puis ensuite, l'Institut de recherche technologique a participé à cette recherche. Et en fait, pour vous raconter rapidement, et les questions, c'était justement le danger qui existait dans cet immeuble, cet HLM, enfin, et l'acceptabilité du risque dans ces HLM et dans les bidonvilles par les habitants, l'inexistence d'un programme de gestion de risque environnemental dans les bidonvilles et les HLM, les risques environnementaux urbains. Et là, je voudrais nous renvoyer aussi aux risques urbains qui se trouvent liés à la question de la précarité. Et ce n'est pas qu'ils ne soient pas étudiés, mais on regarde surtout, quand on parle de la santé environnementale, il faudrait le voir sur cette question de la santé environnementale et le besoin justement d'étudier sous ce point de vue et développer certains objectifs. Et pour faire un peu le cadre de ces HLM à São Paulo, qui est assez semblable à Rio de Janeiro de toute façon, et on peut voir, c'est un portrait aussi de la pauvreté urbaine brésilienne. Elle a cette caractéristique de groupe de risque, de santé gouvernementale qui sont très ponctuels, un niveau de scolarité très faible, d'embauchement aussi, enfin. Et là, pour vous montrer le contexte de cet HLM qui est dans la région centre de São Paulo, c'est une espèce de, enfin, c'est un immeuble de 7 étages abandonné et qui était envahi pendant les années 80. Et le revenu est de à peu près de 1200 reais et le revenu individuel de 480. C'est une population de jeunes et à peu près les 23% se trouvent au-dessous de 10 ans et 87% avec au moins de 40 ans. Donc il y a 42 familles, 174 personnes. Et le niveau scolaire est faible, 48% ont le primaire, enfin jusqu'à la quatrième incomplet. Attendez une minute, je dois mettre mes lunettes.
Voilà. Osmanza Martinez, un théoricien mexicain, fait une distinction entre les risques traditionnels et les risques modernes. Et il dit que les risques traditionnels sont ceux qui sont liés à la pauvreté, et c'est dont justement je vais parler. Je ne vais pas vous souligner des choses très sophistiquées. Ce sont les sujets habituels pour ceux qui travaillent avec les pauvres, la question électrique, les égouts, les déchets, parce que la population a tendance, enfin le faisait, jetait ses déchets sur le toit des voisins. Vous avez de l'eau qui coule, vous avez les fenêtres, les objets sur les fenêtres qui tombent. Toutes ces questions, et c'est très intéressant de le souligner, sont liées à ce fait que ces dangers ne sont pas différents ou ne sont rien différents. Enfin, nous avons voulu souligner les sujets qui étaient communs à tous et qui, d'un côté, ne sont pas travaillés comme des risques environnementaux, mais sont traités comme des risques liés à la pauvreté. Et donc, l'Élysée, c'est vrai, c'est une figure structurelle. On va essayer de trouver une solution à cela à long terme, disons. Dans ce cadre que nous voyons ici, nous avons pensé à comment développer un travail avec la population locale, ce qu'on pouvait faire pour déclencher un procès de requalification. Notre projet, nous avons commencé à partir de, partant du principe que sans la participation de la population locale, nous ne pourrions réaliser absolument rien. Et l'autre point qui a surgi a été le besoin de développer dans cet espace une connaissance collective, la construction collective des connaissances plutôt. La population devrait participer à la création de ces connaissances. L'exercice également collectif de prise de décision était nécessaire pour l'apprentissage collectif de nouvelles habiletés et des connaissances qui émanciperaient les habitants. En partant de ces principes et de ces idées, nous avons créé une méthodologie pour déclencher ce processus. La proposition a été faite par le groupe constructeur. Nous avons travaillé avec la population pour l'identification des risques, l'analyse qualitative des risques, je vais donner une brève synthèse, l'analyse quantitative des risques, l'aménagement des risques, la réponse aux risques et le contrôle et vérification des risques. C'était des questions assez simples. Identification des dangers, par exemple, des risques. Quels étaient ceux-ci? Quel genre de risque? De quel genre de risque parle-t-on? La population nommait ces risques et nous travaillons sur quelle était l'intensité de ces risques. C'était des grands risques, ce sont des petits risques, l'électricité c'est grave, c'est pas grave, enfin le réseau d'égouts, l'eau qui coule chez les voisins, les déchets, etc. Qu'est-ce que ça peut leur apporter dans leur vie quotidienne? Que doit-on faire que nous puissions faire dans la réalité? Dans notre réalité, je veux dire. Et comment surveiller comment empêcher, comment contrôler cette situation. Et alors, partant de cette méthodologie, nous avons travaillé avec la population en utilisant plusieurs instruments. La photo, par exemple, comme une façon d'identifier les questions liées à l'immeuble, l'expérience de voir. Un poster, un panel que nous avons utilisé où chaque réunion, chaque action entreprise par la population, nous créions un panel où nous montrions toutes les activités de la population et évidemment un plan de gestion. Quand nous sommes arrivés là-bas, et je vais ici essayer de donner des noms à la question, à l'ambiance. Quelle a été l'ambiance que nous avons trouvée là-bas? Nous avons vu des habitants qui se sentaient exclus, profondément exclus, surtout de leur entourage. Ils se sentaient isolés et se sentaient isolés par les autorités publiques d'une façon générale. C'était un sentiment d'être rejeté par leur entourage, la peur, une grande peur, parce que quand nous sommes arrivés là-bas, l'immeuble était ouvert, alors tout le monde se trouvait dans le droit d'entrer comme si c'était un espace public. La honte d'habiter dans un immeuble de pauvres, ils se méfiaient les uns des autres, alors et le méfie des politiciens et des hommes politiques en général parce qu'ils avaient déjà été utilisés. Le manque de mobilisation générale, ils habitaient ensemble mais n'étaient pas un groupe, l'absence de sensation de collectivité, l'absence de sensation de appartenance à un endroit, la sensation d'être de passage dans un endroit encore qu'ils s'y habitent depuis plus de 10 ans et la naturalisation des situations de danger. Ici, je vous donne un petit exemple. Vous voyez là cette grille que tous les habitants utilisaient à tous les étages pour rétablir un espace privé. Cependant, c'était très dangereux parce qu'ils y passaient la clé, ils y mettaient un cadenas et laissaient les enfants là-dedans pendant la journée quand ils partaient travailler. Alors, vous vous souvenez peut-être de la situation avec les fils électriques. Vous pouvez vous imaginer ce qui pouvait arriver s'il n'y avait jamais un incendie, quoi. L'autre question, le rejet, par exemple, le sentiment de réjection de part des voisins, de part des voisins, c'était encore plus grand que la perception de ce que tous ces déchets rejetés pouvaient attirer des insectes, des rats, etc., qui pouvaient leur apporter davantage de problèmes dans l'immeuble. Ils avaient un énorme problème avec, par exemple, avec les rats dans l'immeuble. Maintenant, ils n'en ont plus, hein. La perception du risque des autorités publiques, parce qu'ils voyaient cet immeuble comme étant une menace à la banque Itaú, qui est justement ce building juste à côté, que vous pouvez voir, qui est justement un immeuble abandonné. Cependant, les autorités voyaient cela comme étant menacé par l'immeuble des gens pauvres. Alors, le premier contact des autorités avec cet immeuble a été justement une action de part des autorités pour les expulser. Également avec Eletropaul, la compagnie électrique qui leur fournissait de l'énergie et de l'électricité dans de piètres conditions. Et quand ils sont entrés en justice, ou quand enfin ils ont été appelés à agir, et ils sont allés là-bas, ils ont été vérifiés si, comment je vais dire cela, si, disons, l'électricité était utilisée de façon clandestine ou se trouvait dans les paramètres d'utilisation. Quand ils ont découvert que tout était dans les règles, ils ont dit non, il n'y a aucun problème, tout va très bien. Et là, on a dû leur dire, bah non, c'est pas bien, ce sont des conditions horribles. Et c'était très intéressant. La perception du risque de l'entourage également, du à deux. Et là, il y avait justement la menace de ce que l'immeuble ne tombe par manque de structure et d'incorporation par les voisins, le nombre de rats présents dans le voisinage. Et de plus, ils étaient considérés comme des bandits sans hygiène par tout le voisinage. Quand y a-t-il un changement de cette ambiance. Avec notre arrivée, bien sûr, ça commence à changer un peu, mais je voudrais souligner surtout le jalon, c'est quand le danger a montré finalement sa présence. Avec un incendie au deuxième étage, c'est quand les habitants se sont rendus compte qu'il y avait vraiment du danger. Ils se sont rendus compte de la dimension d'un incendie dans leur vie quotidienne, ce que ça signifiait. Et c'était intéressant parce que Poslov, un psychologue américain qui travaille avec la perception du risque, il a dit cette signification du risque n'atteint vraiment une dimension réelle dans notre vie que quand on la vit. Jusqu'à ce moment, la magnitude, l'amplitude du risque n'existe pas vraiment. C'est quelque chose d'un peu dilué. Alors, pour revenir à notre sujet, nous allons voir ici la participation de la population dans cette récupération de l'immeuble. Et à partir du moment où il y a eu un incendie, ils ont commencé à demander notre aide. Ils ont établi un rythme plus accéléré de recherche de solutions, parce qu'après l'incendie, à partir du moment où il y a eu l'incendie, il y a eu une situation plus grave, parce qu'ils ont été vraiment expulsés de l'immeuble par les autorités. On leur a donné une semaine pour partir. Ils ont donc dû repenser leur stratégie. Une semaine, bien sûr, c'était ridicule parce qu'ils n'avaient aucune condition de ce qu'ils sortent de chez eux, changer tout le système électrique en une semaine. C'est là que IPT est entré et que nous allons aller chercher quelqu'un qui puisse nous aider à aider cette population à chercher des options. Et plutôt, disons, le secrétariat d'habitation a enjoint qu'il devait avoir des extincteurs de feu dans l'immeuble et qu'il devait être entraîné par les pompiers. Et bien sûr, personne ne voulait entrer dans l'immeuble. Et c'était vraiment un cercle vicieux parce qu'on n'arrivait pas à trouver de solution à cette situation. IPT nous a aidés et nous avons commencé à développer un travail très intéressant. Nous avons commencé à débattre dans cette formation et de combat aux incendies et de prévention aux incendies. Nous avons commencé à élaborer notre plan de gestion environnementale. Comme vous pouvez voir, il y a ici la participation de toute la population. Tous voulaient participer de toutes les expérimentations. Vous voyez ici. Et une autre chose que nous avons faite, qui était l'utilisation des photos avec les habitants pour qu'ils puissent sentir ou voir ce que c'était que la situation de risque, de danger pour eux. Nous avons utilisé ce panel dans plusieurs réunions pour montrer les succès qu'ils avaient eus tout au long de leurs activités. Nous avons ici notre plan de gestion de risque développé par les habitants, où nous avons mis le danger, le risque et les niveaux de risque de danger, haut, moyen, bas, les mesures qu'ils trouvaient qu'ils pouvaient prendre et les mesures qu'ils pouvaient réellement prendre. Une donnée qui est importante, ce projet, en fait, a été développé avec l'aide de la faculté d'architecture de USP par nous et par eux-mêmes, qui ont, pour ainsi dire, financé cette requalification de leur habitat. Ils ont enlevé d'abord ces grillages et ils ont commencé à déterminer leur espace de privé, disons. Ils ont mis là une grille à l'entrée. Ils se sont mis ensemble pour faire un bon nettoyage. Ils ont développé des rapports avec les voisins. Ils ont commencé à nettoyer le toit des voisins sur lequel avant ils jetaient des déchets. Ils ont travaillé sur l'électricité. Nous leur avons donné une aide, mais essentiellement, ce sont eux-mêmes qui ont fait ça. Ils ont commencé également à s'organiser pour financer ces activités. Et à cause de cela, ils ont commencé à s'approprier de l'immeuble et à faire des interventions dans leur espace domestique. Et là, nous pouvons voir une modification, un changement de leur habitat et dans les appartements, finalement, ce qui donnera un autre aspect à toute cette question, c'est quand ils ont décidé, au milieu de la réforme, c'est un aspect très intéressant, qu'au lieu de résoudre d'autres questions sur lesquelles ils devaient faire attention, ils ont décidé de donner un autre aspect à l'aspect extérieur de leur immeuble. C'était une façon de travailler leur estime propre. C'est une façon qu'ils ont de retrouver leur d'appartenir à leur entourage. Et il faut dire que là, ils ont peint alors leur immeuble, et les habitants du voisinage ont également commencé à peindre le leur en réponse à leur action. Et nous avons donc essayé d'établir cette différence, je veux dire, que les ambiances, quand on change les ambiances, les environnements, les environnements changent les ambiances et vice-versa. Merci. Merci beaucoup, Patrice, pour votre intervention et le contact avec cette réalité. Nous avons maintenant un quart d'heure à peu près pour le débat, mais j'ai d'abord une notice importante qui a trait à une offre, disons, de programme Neve. Le professeur Neve va emmener quelques participants à déjeuner à un restaurant arabe dans la région du Sahara dont nous avons parlé hier. C'est le souk qu'elle a montré hier. Elle l'a montré hier dans son intervention. Alors, ceux qui veulent la joindre pour déjeuner, attendez-la sous les pilotis au rez-de-chaussée. Donc maintenant, nous passons la parole au public pour les questions. Esse fio condutor nas três apresentações, e uma das grandes questões é o que está ocorrendo justamente entre o meio ambiente e a ambiência, e a questão ainda mais complicada em que temos poucas palavras para distinguir essas coisas, mas em certos idiomas é possível distinguir, o que torna mais fácil o trabalho. É possível, mas isso seria um pouco ingênuo, provavelmente de uma outra época, é fazer defesas territoriais. Eu estou no meio ambiente, vocês fazem parte da ambiência, o ambiente faz parte da ambiência, a ambiência faz parte do ambiente e vice-versa. Eu acho que nós não estamos nesse ponto, muito pelo contrário, como estamos no mundo de pesquisa, estamos no mundo de articulação. Então, a nossa intenção justamente é tentar entender como as coisas se encadeiam naturalmente, ou melhor, pelo trabalho, se não pela naturalmente, então em termos de ambiências compartilhadas, com isso, mas não uma luta frontal do ambiente que as pessoas não podem fazer sozinhas. Eu vou lembrar mais uma outra coisa, é que essa história de passagem do ambiente para a ambiência já é bastante antiga, já que nós a vivemos no Cresson no final dos anos 70, trabalhando já sobre essa parte do cotidiano. Foi meu primeiro trabalho em 74 e nos preocupamos muito. No início do Cresson, durante 10 anos, nós tínhamos realmente uma dinheiro para o meio ambiente, nós tínhamos que trabalhar em cima do ambiente para ter créditos. Então, o ambiente era algo que a qual se estava sujeito, é uma coisa poluente, contra a qual era preciso se defender. Se pode trabalhar seriamente sobre isso com médicos, porque a medicina é mais segura que a coisa nas ciências sociais, é algo que chamava ou clamava por uma resposta técnica para problemas sociais. Então, essa espécie de coisa assim meio manca, na realidade, que era trabalhar em termos de meio ambiente, e como Natalina estava dizendo, ainda temos essa propensão em termos de ambiente, a recair em cima de interlocutores que esperam esse tipo de discurso. Então, essa palavra de ambiente vem do francês antigo, já passou pelo inglês, foi recuperado pela ciência americana. Então, e environment é uma coisa sempre da qual temos que nos defender. Para nós isso é muito chato, porque nós estávamos trabalhando em cima de som e luz e começamos a dizer, bom, numa escola de arquitetura, nós estamos esperando que nós trabalhemos então, não somente com espaços concretos, mas com os habitantes, com os moradores, com a vida cotidiana, e também dar uma ajuda à arquitetura, ou seja, ver como podemos agir, não somente ter que sofrer as condições do ambiente, o que fez com que, pouco a pouco, ao criar o doutorado em 90, parecia estar mais próximo da arquitetura, da vida cotidiana. Não, é claro, descartando as dimensões físicas, como eu disse, há, claro, a física, o nosso laboratório, que é muito amplo, há uma pluridisciplinaridade, mas faz com que nós tenhamos passado realmente para as ambiências. Como eu tentei dizer ontem, isso também está faltando um pouquinho, que na verdade é preciso ser um pouco modesto nesse tipo de assunto. Nós sabemos que, por um lado, há as ambiências que têm a ver com o ambiente, que podemos objetivar, dominar, sobre as quais podemos escrever, há toda uma técnica. É preciso poder fazer isso, porque isso é exigido de nós. E há tudo que tem a ver com o intercorporal, com o intersubjetivo, da linguagem, das representações e do infraperceptivo, que é da parte mais difícil das ambiências, mas que justamente é a base mesmo da vida cotidiana. É onde estamos agora, meus colegas e eu. E eu acho que é interessante colocar isso em palavras, articular isso dentro de uma história. São as temáticas do meio ambiente, são as temáticas dos anos 70, dos anos 80, adquiridas, apropriadas pelo meio médico, físico-cientista. Então, não é, digamos, jogá-las no inferno, mas enfim, temos uma coexistência hoje em dia, com um lado técnico médico que ainda fica forte, mas sabemos que quando estamos em campo vamos abordar em termos de ambiência compartilhada para o melhor e para o pior. Então, que é uma reapropriação, uma reapreensão dessa situação que a noção de ambiência, para a qual perdi para a noção de ambiente. Então, aqui temos que trabalhar isso de uma maneira ampla e pluridisciplinar, minha opinião.
Sim, nós vamos ter mais algumas perguntas. Helene, por favor. Sim, eu realmente vi um outro aspecto transversal nas intervenções, sobretudo a intervenção da Tânia sobre o cotidiano do outro e, sobretudo, do termo comum, né, que foi utilizado. E esse fio que eu percebo, esse fio condutor, é a forma como as ambiências interrogam a forma de fazer política hoje. E isso realmente apareceu, perpassou todas as intervenções. E justamente há uma forma de pedido de reconhecimento, de legitimação dessa expertise cotidiana e uma interrogação sobre todo esse repertório com os homens, com os políticos, para deslegitimar a palavra, a prática do habitante, a nível daquilo que ele ressente, daquilo que seria efetivamente da emoção não duracional. A pergunta que eu poderia fazer é se, através das várias experiências, quais são os atores e os processos que lhes parecem ser observáveis para construir esse modo de reconhecimento. Falamos de artistas, mas será que isso é suficiente? Eles têm a capacidade de construir uma nova expertise para poder contrarrestar, por exemplo, a dos cientistas, ou ligada dos cientistas? E em relação às associações de moradores, atores, artistas, associações de
de moradores, por exemplo, outros militantes com compromisso. Enfim, é uma pergunta sobre esse processo de reconhecimento dessa expertise. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une autre question. Bon, alors, bon, d'accord, Marc. Bom, então uma pergunta sobre os artistas canadenses, quando eles fizeram aqueles cartazes em cima, né, sobre os pobres infelizes que, enfim, dormem na rua, o que aconteceu? Porque podemos mudar assim, realmente mudar a situação, mas eu fiquei surpreso com esse tipo de atitude. Bom, sim, depois discutiremos isso. Mas o que aconteceu depois? Se bota um cartaz em cima, como se fosse uma fala de desenho animado, isso é considerado como uma obra de arte potencial? O que isso mudou efetivamente? Bom, agora nós já temos três questões, então eu acho que nós podemos começar, então, a mesa pode responder. Começar? Bom, Jean-François, je ne sais pas si j'ai parlé trop vite et peut-être je n'ai pas suffisamment expliqué. Mais quand nous avons commencé la discussion en 2006, en portugais, il y a une différence entre ambiance et environnement. Et ce sont des paroles, ambiência et ambiente, qui sont des paroles différentes, même semblent similaires. Quand on va penser et construire cet espace, l'espace, et là je veux dire la territoire, faire la territorialisation de cet espace, si on pense en ambiance, on le dénomine dans un espace construit où on va l'objectiver. Et pour moi cela a été difficile, faire cette distinction, construire cette distinction d'ambiance. Et là, je vais parler d'un apprentissage de la subjectivité dans le singulier qui va être oxygéné par le collectif. C'est la façon dont j'ai arrivé à comprendre ceci. Cette distinction, pour moi, a été très compliquée car ambiencia n'est pas claire, l'ambiance n'est pas claire. Parce que si on n'a pas clair cette attitude, l'attitude de cette population qui se cristallisait et n'arrivait pas à se mobiliser, il était difficile de, disons, déchaîner et de vraiment créer ce processus de changement. Ce n'était pas seulement l'incendie, mais notre propre difficulté de faire cette lecture de l'ambiance et environnement. C'est ce que je voulais vous expliquer. Ambiencia, ambiente. Bon, em relação à questão de ambiente, environnement, no campo das pesquisas anglo-saxões, ela já não é mais considerada, no seu sentido, nos anos 70, como um objeto repulsivo, ou seja, todo o campo da ética no meio ambiente, da estética. Então, há toda uma série de trabalhos que vão elaborar essa questão. E eu acredito que não é uma questão de opor as noções, mas de fazer com que essas noções sejam trabalhadas juntas, a partir das práticas sociais, a partir das representações sociais, e não é apenas um debate acadêmico. Enfim, para mim isso é um verdadeiro desafio político, definir o que seria essa apreensão de pouco que importa, seja meio ambiente, ambiência, o que importa é como as pessoas o chamam. Bom, sim, para responder um pouco. As experiências de artistas que nós estudamos, elas vão levar a uma redefinição do político. Então, eu chamo isso de jargão, de uma cosmopolítica, ou seja, a política se alarga. O mundo comum não é apenas para os humanos, mas ele se alarga. E o que vamos fazer? Para fazer essa ampliação do político, vai se colocar à tônica com aquilo que nos liga ao ambiente, ao meio ambiente. E aí vemos as formas, aquilo que definimos como Nathalie, como essas formas comuns, públicas, que irão tecer a experiência junto com possibilidades de julgamento e debate. As formas em si que nós mostramos é um meio entre o homem e o ambiente. E essa relação entre homem e ambiente é muito sofisticada, muito complicada. É aquilo do trabalho do Goyari, que uma série de trabalhos é uma concepção de interpenetração mútua, em que o íntimo vira extimo, onde não há um externo oposto a um sujeito. Ou seja, é bastante complicado de conceber. Por sorte, temos formas que são meios entre o homem e o seu ambiente. É uma dessas formas que vai, então, desempenhar esse papel de meio de passagem e vai nos permitir expressar essa attachment, essa ligação com o meio. E eu, quando falamos sobre ambiência, é uma síntese que é não sistêmica, ou seja, há uma imersão polissensorial no ambiente, há uma série de ligações dessa pessoa com a sua proximidade, o seu ambiente, e essa riqueza vai ser sintetizada, expressada por uma noção sintética, ambiência, que é uma noção que em parte está implícita, mas que, apesar de tudo, tem uma certa pertinência para as pessoas que se compreendem quando falam sobre isso. Então, finalmente, são noções que vão nos ajudar a pensar nessa complexidade. A noção de ambiência, de paisagem. Eu, por exemplo, que sou um politólogo, é um operador que vai rearticular a experiência íntima do privado com o público, o debate público. Vamos depois falar sobre isso, mas que faz sentido porque ele é coproduzido. A ambiência é coproduzida por toda essa diversidade de moradores, mas também pode ser compreender pelos fabricantes das cidades. E a partir daí, aquilo que nós falamos com a Nathalie é que há lugar para uma forma de política que vai utilizar essas formas para reabilitar uma nova concepção de ambiente, de meio, e vai utilizar então as formas, as ambiências, paisagens, narrativas, porque é preciso esclarecer a passagem entre o indivíduo e o coletivo, entre o singular que nós podemos e o que podemos generalizar, entre experiência estética íntima e o julgamento que pode discutir disso. É necessário dar as chaves para a leitura, para compreender o vivido desse local, reabilitar essa ligação com o local, que não seja apenas, enfim, visto como negócio. Então, realmente, é se apoiar sobre essas três formas para criar uma política. Mas essas políticas inovadoras, elas podem se prestar a qualquer instrumentalização possível, ou seja, os planificadores vão se jogar sobre isso. Nós vamos fazer com que os moradores falem bastante, se eles aceitam ou não os projetos, ou que condições. O problema é justamente como evitar, eu sei que eu falo muito, mas como fazer o empowerment. E eu acredito que há uma primeira coisa que me parece essencial sobre a estética participativa, são as duas noções de participação. Temos um indivíduo que participa nesse ambiente, que se encontra imerso nesse ambiente, e a partir dessa imersão podemos então criar a sua participação no dispositivo político democrático. É esse tipo de coisa que precisamos fazer. Bom, enfim, eu não tenho tempo de dizer tudo, de completar tudo que eu estou pensando. Bom, eu queria fazer duas pequenas observações, uma para dizer que eu fiquei muito interessado pelas três intervenções, que me pareceram muito, andaram muito bem juntas, se complementaram, trabalhavam a mesma questão, que é como através da ambiência podemos voltar aos desafios do ambiente. Então, é um pouco aquilo que Jean-François falava sobre a história da ambiência e do ambiente, ou seja, esse retorno sobre quando se partindo da ambiência pode-se também criar essa problemática. É assim, seria um ponto de vista inverso? Sim, claro. Me parece interessante. Depois, uma segunda observação, e talvez possa haver uma discussão fundamental, não teremos tempo, mas é um aspecto que pode aparecer ao longo do resto desse seminário. Para poder colocar a ambiência como uma das formas, entre outras, da relação cotidiana, ou então a paisagem, a narrativa, como formas possíveis, dizendo que é uma pluralidade de formas, e nessa pluralidade de formas, uma dentre elas possui ambiência, se é que eu compreendi bem a apresentação, mas há também outras formas de pensar as coisas, que é se colocamos ambiência como fundo comum do que é morar. E se ele é o fundo comum daquilo de morar, é realmente o pedestal sobre o qual todo o resto se erige. E eu acho que aí é uma verdadeira questão, porque essas duas formas de abordar a problemática da ambiência. Bom, é um pouco tarde dizer isso, mas é uma ideia. Eu acho que o desafio é que não seja realmente um desafio sobre o sexo dos anjos, que essa noção realmente tem verdadeiros desafios que não sejam apenas justamente só para nós, né, que realmente ultrapassem a nossa esfera de conhecimento e de ação. Bom, nous allons clore ce panel et je voudrais vous rappeler qu'à la fin de cet après-midi, nous aurons temps pour continuer.